Alors, mes amis, nous arrivons déjà à cet après-midi du samedi 14 mars et nous continuons notre étude sur le message trinitaire que nous avons intitulé particulièrement le Père de gloire et qui a pour toile de fond l'épître de Paul aux Éphésiens. Et puisqu'il nous a été promis une abondance de grâce, nous voulons la lui demander encore en ce moment. Nous croyons au Dieu à toutes tes promesses. Et cet après-midi encore, nous avons besoin de ta grâce. De ta grâce pour pouvoir donner le message, mais aussi de ta grâce pour le recevoir au plus profond de nos cœurs, afin que cette parole ne nous laisse pas intacte, mais qu'elle nous transforme, qu'elle soit réellement vivante et opérante, et qu'elle produise un fruit pour ta gloire. Tu as engagé ta gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, pour réaliser ce plan merveilleux du salut, que nous puissions, à notre tour, y entrer pleinement dans ce plan et nous laisser faire et recréer par toi, dans ton âme, en Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, je veux croire que vous n'êtes pas trop fatigués, mais que va encore nous renouveler. Nous avions donc, cet après-midi, à terminer cette portion de ce qu'on appelle la partie doctrinale de l'Épître aux Éphésiens, qui contient donc trois chapitres. Nous en avons étudié un ce matin et j'espère que vous continuerez à sonder les merveilles de ce chapitre premier pour devenir vraiment ce que le Père désirait, des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que cherchait le Père, nous a dit Jésus, alors qu'il parlait à la femme samaritaine. Alors, ce chapitre premier qui nous a occupés ce matin se terminait, comme nous l'avons vu, par une action de grâce de l'apôtre pour la foi et pour l'amour des destinataires de la lettre. Il avait entendu parler de leur foi et de leur amour et il en était réjoui. Et quand on est réjoui d'une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce. Alors Paul rendait grâce. Quelle bonne nouvelle! Voilà des croyants qui sont manifestés par une foi vivante et par un amour vraiment fervent et bouillant. Mais alors, au lieu de se dire, ben bon, maintenant je m'occupe d'autres personnes, il dit, bien justement, puisque j'ai entendu ces bonnes nouvelles, je m'en vais continuer de prier pour vous. Et nous avons vu ce que l'apôtre demandait pour des gens dont il avait de bonnes nouvelles. Eh bien, il demandait à Dieu qu'il leur donne un esprit de sagesse. Parce que justement, si vous croissez dans la connaissance de Dieu, bien, vous le savez, il y a un danger, c'est que la connaissance est l'enfle. Il ne faut pas devenir orgueilleux. Et si vous avez peut-être un peu plus de lumière que d'autres personnes qui vous entourent, restez petit, restez humble et n'essayez pas d'éblouir votre entourage. Le Seigneur ne vous demande pas d'éblouir. Il vous demande simplement d'éclairer, d'être lumière sur le sentier des autres et de répandre cette lumière sur les pas de ceux qui vous entourent. Mais ne pas leur montrer là votre lumière à vous, une lumière soi-disant éblouissante. Et c'est comme ça qu'il y a les heurts. Quand on ne baisse pas ses phares, hein, on éblouit celui qui vient en sens inverse. Il faut savoir rester petit et baisser nos phares. Et comprendre que nous avons besoin, justement, puisque Dieu nous a fait une révélation, et nous n'allons pas en faire n'importe quoi de cette révélation. Nous avons besoin d'un esprit de sagesse. Cet esprit, nous l'avons reçu, mais maintenant, il faut qu'il nous conduise vraiment avec sagesse, pour que nous apprenions à connaître Dieu. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Je demande à Dieu que vous ayez un esprit de sagesse pour connaître Dieu. Il y a une foule de gens qui prétendent connaître Dieu. Mais au fond, quand nous regardons les choses de près, on se rend compte qu'on ne connaît pas tellement Dieu. Notre connaissance de Dieu, elle est vraiment médiocre, bien souvent. Eh bien, il faut que j'apprenne à le connaître. C'était toute la vie de l'apôtre Paul. Le connaître, lui. Comment, Paul? Il y a des années que tu le connais. Il y a tant d'années que tu es converti. Oui, mais je veux le connaître encore. Parce qu'il n'y a que lui qui mérite vraiment d'être connu. Et puis, il veut aussi qu'ils aient cet esprit de sagesse pour connaître vraiment le but de gloire, de l'espérance chrétienne. Nous avons vraiment besoin de savoir quelle est notre espérance. Nous vivons au travers d'un siècle où il y a tant de découragement. Quelle est notre espérance? Eh bien, le but de notre espérance, c'est vraiment la gloire du Seigneur. Et l'assurance de notre espérance qui nous assure vraiment que cette espérance n'est pas trompeuse, eh bien, c'est qui? C'est le Christ. C'est quelqu'un. L'assurance de mon espérance, c'est pas une chose, c'est le Christ. C'est une personne. Et comprenez-le bien, le salut, ce n'est pas quelque chose, hein, que vous avez mis dans votre poche. Je l'ai dit souvent et je le répète, le salut, ce n'est pas, comme on l'a montré quelquefois dans des réunions d'évangélisation, un billet de chemin de fer gratuit pour le ciel. J'ai eu mon billet pour le ciel. Alors je suis sauvé. J'ai compris. Alors j'ai mon billet. Le salut, ce n'est pas non plus un visa qu'on aurait mis dans votre passeport. Et le salut non plus, ce n'est pas une police d'assurance contre l'incendie éternel. Ça vous dirait pas en enfer. Je n'irai pas retirer en enfer. Voilà. C'est ça votre salut? Le salut, ce n'est pas quelque chose. Le salut, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut, disait le vieillard Siméon. Et qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Il avait Jésus. Le salut, c'est Jésus. Alors vous pouvez le perdre? Vous le laissez tomber? Le salut, c'est Jésus. Et le salut, c'est pas moi qui le tient, mais c'est lui qui me tient en finale. Alors, ayant terminé par cette prière de l'apôtre Paul, et qui nous montre que pour réaliser son plan, Dieu met à notre disposition toute la puissance qui a agi pour ressusciter qui? Pour ressusciter Jésus-Christ. J'espère que vous avez compris maintenant quelle est la puissance de votre salut. La puissance de votre salut, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, rien ne peut s'opposer à une telle puissance. Sortir de la mort, quand on a été crucifié, quand on a été mis dans le tombeau, eh bien, c'est cette puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts qui est maintenant à votre disposition. Et vous arrivez maintenant alors au chapitre 2, qu'on intitule souvent, au fond, le résumé complet de l'Évangile. On est sauvé par la grâce dans la foi. Mais quelle est la situation de départ? Qu'est-ce que nous étions avant d'être sauvés? Verset 2, vous l'avez vu. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Qu'est-ce que nous étions autrefois? Parce qu'il doit y avoir dans notre vie un autrefois et un maintenant. Eh bien, autrefois, nous étions des esclaves du péché. Et quand on est esclave du péché, on ne peut pas faire autrement que de pécher. Le péché nous domine. Est-ce que vous pouvez demander à un mort de faire un effort? À un mort de faire du bien? Non. Notre état spirituel, c'était la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça nous met vraiment dans la mort. Et vous pouvez exhorter un pécheur pour qu'il fasse mieux, eh bien, vous serez vite découragé. Vous ne pouvez pas exhorter un mort. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait cette puissance de Dieu qui saisisse ce mort. Eh bien, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est là que nous place le péché. Versets 1 et 3. Et vous savez, pourtant c'est mort. Et moi, je trouve que c'est un cortège effroyable, hein, des morts qui marchent. Vous avez vu des morts qui marchent? Mais comment est-ce que ça se fait que ces morts marchent? Le cortège de morts, ça me fait trembler, hein. C'est macabre. Et les morts sont en marche. Mais alors, qu'est-ce qui les fait marcher? Hein? Qu'est-ce qui les fait marcher? C'est une puissance surnaturelle. Mais d'où vient-elle? S'ils sont morts pour Dieu, d'où vient cette puissance qui fait marcher ces morts? Et que leur fait commettre toutes sortes de choses mauvaises. C'est une puissance surnaturelle, mais qui est celle de Satan. C'est la puissance du diable qui fait marcher ces gens. Nous étions morts. Et autrefois, nous étions sous cette puissance du diable. Et nous étions bien vivants, mais vivants pour qui? Pour Satan. Mais pour Dieu, nous étions morts. Mort dans nos fautes et dans nos péchés, mais vraiment vivant pour Satan. Alors, nous marchions selon le train de ce monde. Et là, vous pouvez reprendre votre traduction que nous avons eue, n'est-ce pas? Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Le train de ce monde, évidemment, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le train de ce monde, c'est la manière de vivre de ce monde. Donc vous la connaissez. La manière de vivre de ce monde. Voilà un texte qui est très bon, hein. C'est plus clair. Parce que le train de ce monde, vous dites, qu'est-ce que c'est? Vous viviez selon la manière du monde. Et qui est le prince de ce monde? Jésus l'a dit. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Le prince de ce monde vient, disait Jésus, la nuit où il fut livré. Mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est Satan, mais c'est un usurpateur. Et depuis quand est-il prince de ce monde? Depuis la chute, depuis qu'Adam, au lieu de rester dans la soumission et l'obéissance à Dieu, a voulu lui-même s'élever et devenir Dieu lui-même, son Dieu. Devenir Dieu son Dieu. C'est cela que Satan a insinué à Ève, puis à Adam. Vous serez comme Dieu. Mais justement, le plan de Dieu, c'était de nous faire devenir comme lui, mais par un autre chemin, par un chemin de dépendance de lui, où nous allions tout recevoir de lui. C'était là son plan secret, nous amener à la gloire. Mais le diable est venu en disant, t'as pas besoin de Dieu pour arriver à la gloire, tu peux y arriver toi-même. Et c'est là ce qui a perdu l'homme. Il a cru qu'il pouvait parvenir à la ressemblance de Dieu, mais sans Dieu. Et alors, il a été coupé de la vie qu'il avait avec Dieu, et il est retombé sur lui-même, il n'était plus que chair. Il n'était plus que chair. Alors, il est devenu l'esclave de celui à qui il a obéi. Vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Et c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde, alors que c'était l'homme qui devait dominer le monde, dominer la création, et c'est lui qui a été dominé. Et il est appelé ici le prince de la puissance de l'air. Et quelquefois, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Satan, le prince de la puissance de l'air. Bien, les anciens se représentaient toujours les puissances sataniques dans l'atmosphère, dans l'espace. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vraiment cela. Satan, c'est lui qui empoisonne quoi? L'air. Il empoisonne l'atmosphère. Oh, vous parlez des pluies acides et de toutes sortes de choses. Hein. Mais au fond, l'atmosphère dans laquelle le monde vit, c'est une atmosphère pollue. Complètement. C'est Satan qui est le prince de la puissance de l'air. L'air qu'on respire aujourd'hui, la mentalité du monde, c'est une mentalité diabolique, satanique. Et nos enfants déjà respirent cela. Dans les écoles, on leur enseigne des choses qui sont absolument contraires à la pensée et à la parole de Dieu. Vraiment, Satan est le chef de la puissance de l'air, de cet air qui devient, pour un vrai chrétien, irrespirable. Ça devient de plus en plus irrespirable. Alors, qu'est-ce qu'il faudra qu'il se passe? Que le Seigneur nous enlève. Hein? Parce que ça deviendra irrespirable. Le chrétien authentique qui voudra vivre selon la parole de Dieu, eh bien, il n'aura plus sa place sur cette terre et dans ce monde. Parce que ce qui se passe dans ce monde, c'est un amas d'iniquité. Ce sont des orgies dans tous les domaines. Il y a l'injustice, il y a la violence, il y a le crime, il y a la drogue, il y a le sexe et toutes ces folies. Et puis, vous savez, c'est pas la peur du sida qui va arrêter les gens. On a déjà trouvé la combine, le condom. Voilà. Et puis, on nous dit, de toute façon, il faut mourir. Alors, je ne veux pas me priver de ce qui me plaît. Que je meure du sida ou d'autres choses. Hein? Ah oui, que tu meurs du cancer parce que tu fumes beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Tu ne veux pas te priver de cela. Alors, vous voyez, les gens font des bonds vers la mort. Ils ne marchent pas. C'est un cortège de mort qui va vers la mort. Mais ils avancent en faisant des sauts de plus en plus rapides vers la mort. Hein? Ben oui, mais c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort.
Alors, vous voyez comme c'est actuel. Hein. C'est un esprit qui agit maintenant dans les fils, ils sont appelés les fils de la rébellion. Ou cet esprit agit dans ceux qui désobéissent à Dieu. Qu'est-ce que vous voyez dans le monde? Est-ce qu'on obéit à Dieu?
Mais qui est Dieu?
Dieu a pourtant donné une loi. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette loi? On la transgresse. Tu ne tueras pas, mais si ça me plaît, de dévaliser un dépanneur, je tue. Tu ne déroberas pas. Mais si ça me plaît de faire un hold-up, si je ne me fais pas prendre, j'en ferai un. Si ça me plaît de mettre le feu à la forêt, ben je serai... Oh non, je ne serai pas même un incendiaire. On dira que je suis un pyromane. Hein, c'est beau, hein, un pyromane. Ou un voleur, c'est un kleptomane. On a changé tous ces noms-là. Alors, ça passe. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Je suis né avec ça. Puis au fond, le responsable de tout ça, c'est qui? C'est l'auteur de ma vie, c'est Dieu qui m'a fait. C'est pas mon père ni ma mère, mais enfin, on monte plus haut, puis on arrive à Dieu, et c'est toujours Dieu qui est le responsable. Il ne nous avait pas prédestinés à cela. Il ne nous avait pas prédestinés à la colère, il nous avait prédestinés à la gloire. Mais voyez-vous, il y a un esprit qui opère dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, dit Paul, donc juifs ou païens, nous étions de leur nombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi je suis né saint, aïté, hein? Vous êtes un petit saint? Vous êtes venu avec votre chemise? Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. On est tous nés de la même manière. Et nous sommes nés de quoi? De la chair. Et ce qui est né de la chair est chair. Hein. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair. Vous l'avez peut-être lu dans les deux. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre nature humaine, parce qu'est-ce que c'est la chair? C'est notre nature humaine. Et nous accomplissions ce que voulait notre corps et notre esprit. Les deux choses. Nous accomplissions les volontés de la chair et aussi de nos pensées, parce que il n'y a pas seulement les péchés de la chair, les péchés grossiers, mais il y a les péchés de la pensée, l'orgueil. On veut arriver, on veut dominer. C'était cela qui nous conduisait. Nous étions par nature des enfants de colère. Qu'est-ce que nous méritions? La colère. La colère de Dieu. Mais pourtant, Dieu a envoyé son Fils. Et nous lisons dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean que ceux qui ont cru sont donc passés de la mort à la vie, ils sont nés de nouveau, et la colère de Dieu, eh bien, n'est plus sur nous. La colère est tombée sur le Christ, alors il n'y a plus de colère. Mais si nous repoussons Christ, si nous ne voulons pas croire au Christ, si nous ne voulons pas l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur, la colère de Dieu demeure sur nous. Il est dit que la colère de Dieu demeure sur nous. Si elle ne s'abat pas immédiatement, c'est pour quelle raison? C'est parce que Dieu a de la patience et il voudrait nous donner le temps de nous convertir. C'est uniquement cela. Mais si tu refuses le Christ en ayant connaissance de l'amour qu'il a eu pour toi et en ayant connaissance de ce qu'il a fait pour toi, si tu le rejettes, eh bien, tu n'as plus qu'à attendre la colère de Dieu. Et voyez-vous, elle vient, cette colère. Elle s'amasse sur le monde. Le monde mûrit pour un jugement qui sera à la mesure de ses iniquités. Oui, nous étions avant des enfants de colère comme les autres. Pourquoi? Parce que nous étions les enfants de qui? Du diable. Nous étions devenus les enfants de Satan. Ben, ça ne nous plaît pas de dire ça. Moi, un enfant du diable. Mais vous savez, le diable n'est pas cette tête cornue et fourchue qu'on vous a présentée sous une image du Moyen-Âge. Le diable, il a la figure que le monde aime. C'est un très beau personnage. Et il est très attirant. Il a des attraits, il est très flatteur. Alors, faites attention. Hein. Ça peut être l'ange de lumière, Satan. Mais nous étions des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, oh, souvenez-vous de ces mots, la richesse de sa grâce, les richesses de Dieu. Il est riche en miséricorde. Malgré toute la misère que nous avions, de sa miséricorde est encore plus grande que notre misère. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Est-ce que vous avez connu cette bonté? La bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que, de mort que nous étions, nous puissions revivre? Il a fallu que le Fils unique du Père s'incarne, revêt un corps de chair, mais pour quelle raison? Puisque le salaire du péché, c'était la mort, pour nous sauver du péché, il voulait prendre nos péchés sur lui. Mais s'il prenait nos péchés sur lui, qu'est-ce qui allait lui arriver? Il allait mourir, quoi qu'il était sans péché. Celui qui était sans péché devrait être fait péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Alors, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils dans ce monde et son Fils s'est identifié à nous. Il a accepté de prendre sur lui nos péchés et de mourir sur la croix pour nos péchés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Mais comment? Il a pris nos péchés, il nous a pris avec lui, il nous a entraînés dans sa mort, et puis, est-ce qu'il est resté dans la mort? Non. Comme il était le prince de la vie, il est ressuscité, mais en même temps, il nous a ressuscités en lui. Il nous a ressuscités en lui. La vie que nous avons maintenant, est-ce que c'est notre vie naturelle que nous avons héritée de nos parents? Non. C'est une vie nouvelle. C'est une vie spirituelle. S'il y a quelque bien qui se passe dans votre vie, elle vient d'où? Elle vient d'où ce bien? Du Seigneur. De la vie du Seigneur qui peut manifester en vous son fruit. Nous étions donc morts par nos offenses et nous avons été rendus vivants avec le Christ. Et alors, vraiment, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que nous étions tous des coupables. Nous étions tous coupables devant Dieu. Les païens, donc, étaient sous la domination de Satan et du monde, et les Juifs sous la domination de la convoitise. Ils avaient la loi, mais la loi, au lieu de l'accomplir, ils la transgressaient. Alors, on était tous dans le même bain. Juifs ou païens, nous étions tous pécheurs et condamnés sous la colère. Mais nous apprenons que nous sommes sauvés vraiment par grâce. Nous sommes ressuscités ensemble. Est-ce que vous voulez vous laisser saisir par le Christ? Et alors vous saurez qu'il vous place où il se trouve. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Dans le chapitre 1er, nous avons vu où était le Christ ressuscité. Il est dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissance. Et dans le chapitre 2, qu'est-ce que nous apprenons? Où sommes-nous aux yeux de Dieu? Assis en lui, dans les lieux célestes. Donc aussi au-dessus de toutes les puissances. Nous sommes déjà spirituellement sur son trône, en lui, et nous pouvons mener le combat contre les puissances d'en haut. Nous avons l'avantage. Ce n'est pas essayer de faire une trouée jusqu'à lui, mais nous l'ayant pris avec lui, nous savons maintenant quelle est notre position. Nous sommes où? Dans les lieux célestes. Est-ce que vous voulez croire ça? Nous sommes dans le céleste déjà, et vous êtes en Christ. Vous êtes caché en lui, et c'est lui qui va mener le combat. Laissez-le agir. C'est lui qui a triomphé du péché, de la mort, de Satan, laissez-le triompher maintenant en vous. Vous êtes vivifié avec le Christ. Votre vie, c'est quoi? C'est Christ. C'est ça que Paul dit. Quand Paul dit « Christ est ma vie », il dit pas « je suis arrivé à un certain degré de spiritualité », non. En dehors de Christ, je n'ai pas la vie. Mais en lui, j'ai la vie. Et justement, Jésus disait à ses disciples, « Parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. » Si vous vivez, si vous avez une vie spirituelle, c'est uniquement à cause de Christ, et non pas à cause de vos efforts qui vous tuent. Si vous essayez de réaliser, vous, la vie chrétienne, vous êtes découragé. Mais si vous laissez le Christ réaliser en vous sa vie, alors, plus de gloire pour vous, mais plus de gloire pour le Christ. Et vous serez vraiment à la louange de sa gloire. Tout cela, Dieu nous l'a révélé. Voilà le dessein secret de Dieu. Il voulait montrer, verset 7, dans les siècles à venir, dans tous les temps, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oh, je demande au Saint-Esprit que vous puissiez être touchés par cette bonté de Dieu. C'est tout autre chose que de dire le bon Dieu. Le bon Dieu. Moi, j'aime pas cette expression. Je dis Dieu est bon, mais c'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Bannissez ça de votre langage. Comprenez-le. Parce que mon Dieu, c'est mon Dieu. Hein. Alors, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il y a des choses qui doivent être corrigées sur nos lèvres. Nous devons avoir des lèvres purifiées. Esaïe, quand il s'est vu dans la présence de Dieu, il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Et il a dû être purifié du péché de ses lèvres. Alors, nous sommes donc sauvés par la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'absolument gratuit. Nous ne méritions que la condamnation et la mort, mais il nous a fait grâce. La grâce, on ne l'offre qu'à un condamné. Hein. Nous étions des condamnés. Nous sommes sauvés par la grâce, mais alors, il est dit par le moyen de la foi. Dieu nous fait grâce, mais qu'est-ce que nous devons faire, nous? Nous devons croire. Et qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien, c'est de prendre Dieu au vent. Tu me fais grâce? C'est trop beau? C'est peut-être trop simple? Je le crois. C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Il m'a sauvé. C'est une bonne nouvelle, l'évangile. Hein? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais il faut que ce soit une bonne nouvelle. Vous êtes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous. Parce qu'évidemment, si ça vient de vous, votre salut, vous allez le perdre. Parce que c'est votre salut. Mais si c'est le salut de Dieu, c'est pour ça que les prédicateurs devraient faire attention. Parce qu'ils veulent sauver une multitude de gens. Mais ce n'est pas nous, les prédicateurs, qui sauvons les gens. Hein? C'est l'œuvre du Christ. Et vous savez, on peut bien influencer une salle par toute espèce de musique. Alors pendant qu'on est dans l'ambiance, pendant qu'on est sous cette influence musicale très douce, on vous fait prendre des décisions
puis au fond, pourquoi pas? On vous dit tellement que vous serez sauvés, etc., vous n'irez pas en enfer parce que son cas vous est perdu, etc. Et alors, bon, ben, vous prenez une décision. Ça ne peut pas me faire de mal. Oui. Alors, je comprends que vous perdiez votre salut après ça. Mais ce n'était pas le salut de Dieu. Parce que le salut, c'est une régénération. On ne fait pas du travail à la chaîne quand on est dans la vie spirituelle. Parce qu'alors, il y a des déchets, qu'est-ce que vous voulez. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas sauver dans sa grâce, dans n'importe quelle réunion. Mais il y a des méthodes, on croit qu'on a des méthodes, des plans. Mais c'est une semence qui doit être jetée dans le cœur. Et vous n'êtes quand même pas des imbéciles ici. Vous savez ce que c'est que mettre une semence dans la terre. Qu'est-ce qu'il faut? Gratter tout de suite? Pour voir si ça germe? Il faut la laisser reposer. Puis vous ne voyez pas tout de suite quelque chose. Et c'est Dieu qui fait germer. Et voyez, il faut respecter les lois de Dieu. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais si on veut faire de l'évangélisation à tort et à travers, on essaye toute espèce de méthode, et puis on pense qu'il suffit de prêcher le nom de Jésus, Jésus sauve, Jésus sauve, et puis voilà, les gens croiront. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel il fallait être sauvé. C'est vrai. Mais c'est pas de prendre un verset puis de l'appliquer comme ça que les gens vont être sauvés. La parole de Dieu, c'est une semence. Et relisez la parabole du semeur et vous aurez une sagesse. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas sauver les gens 4 minutes, hein, 2 fois 2 font 3 fois 3 font 9 ou 2 fois 2 font 4. Hein. C'est pas ça le salut. C'est pas mettre ça dans le sac. C'est une régénération. Et vous savez, avoir une conviction de péché, savoir que vraiment, nous sommes perdus. Et accepter que je ne peux rien faire. C'est humiliant. C'est humiliant. Et voyez-vous, il faut cette repentance. Or, la repentance, maintenant, on ne la prêche guère. C'est la joie, c'est la joie. Et alors, on vous donne toute espèce de cantique pour vous déconnecter de la terre. Et puis voilà, c'est comme une fusée qui monte. Puis voilà, elle se désintègre, oui, quelquefois. La navette spatiale, paf, ça retombe. Alors que le Seigneur nous garde de tout cela. Mais c'est le monde, c'est l'atmosphère, c'est le prince de l'autorité de l'air. C'est tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on est pris par cette ambiance même. Spirituellement. Et voyez-vous, il faut réagir. C'est pour ça que je reviens à la parole de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, oh Dieu, je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu dis au sujet de ton Fils. Et quand je contemple maintenant la croix, quand je contemple la mort de Jésus, je n'aime pas ces petits cantiques où on fait chanter les enfants n'importe comment au sujet de la croix. Hein? Presque en rigolant. Ou en battant des mains, en faisant toute espèce de choses, quand il est question de la mort de Jésus. Mort pour nos péchés. Puis voilà, on les fait chanter n'importe comment. Oui, attaché à la croix pour moi, les enfants l'aiment bien. Mais il faudrait le leur faire chanter d'une certaine manière. Et puis pas comme une rengaine. Parce qu'attaché à la croix pour moi, ça n'a pas été rien. Et il faut que nos enfants sachent le prix de leur salut. Parce qu'aussi ont besoin d'être sauvés. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, vous croyez que Dieu, qui donne le salut, vous le reprend après? Qu'est-ce que vous lisez dans l'Écriture? Les dons de Dieu sont éternels, ils sont sans repentance. Dieu ne se repent pas des dons qu'il a faits. Alors, le salut est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Parce que si vous pouviez vous attribuer votre salut, hein, ce serait votre gloire, non? Vous ne devez pas pouvoir vous vanter de votre salut. Ce n'est point par vos efforts, lisons-nous, afin que personne ne puisse se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes œuvres. Ah, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres, pour pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Ne dites pas que nous ne devons pas parler des œuvres. Si réellement vous êtes sauvé, il y aura des œuvres. Comprenez-vous ? La foi vivante, quand elle n'est pas simplement intellectuelle, une adhésion à une idéologie, mais la foi en quelqu'un, ben c'est une foi qui produit des œuvres. La foi en nous, elle met le Christ en nous. Et alors, mon salut, c'est Jésus. Mon salut, c'est Jésus. Et il est en moi. Et alors, s'il est en moi, eh bien, lui va accomplir par mes mains, parce que quand Dieu a voulu se manifester au monde, il avait besoin d'un corps. Et en qui ce corps a-t-il été formé? Qui a dit son oui pour que le Fils de Dieu puisse paraître dans un corps? C'est quelqu'un que vous ne devriez pas oublier. C'est Marie. Hein. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup Marie et que je prends les leçons de Marie. N'est-ce pas? Et qui a accepté qu'en elle, Dieu fasse son œuvre pour que le Christ soit formé et qu'il puisse être donné au monde. Alors, n'oubliez pas cela. Et acceptez maintenant, comme Marie, que Dieu fasse de vous et en vous l'œuvre qu'il veut. Il vous a créé pour les bonnes œuvres. Quelles sont ces œuvres? Ce n'est pas celles que vous allez choisir. Il y a une foule d'œuvres que vous faites et que vous ne devriez pas faire. Vous vous tuez à faire ceci, à faire cela. Mais est-ce que Dieu vous l'a demandé? Il y a des chrétiens qui nous disent qu'ils sont crevés. Moi, je ne vois pas des chrétiens crevés. Hein? Ou alors, il y en a qui sont gonflés. C'est pris des gonfles. Vous connaissez les chrétiens gonflés, puis dégonflés? Les chrétiens crevés. Mais j'espère pas être un chrétien crevé après cette retraite, mais un chrétien renouvelé dans le Seigneur, dans l'humilité et dans la grâce. Et je me suis enseigné, tout en vous enseignant, pour que je sois davantage disponible pour l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais c'est lui qui a préparé le travail, c'est pas nous. Et ensuite, alors, depuis le verset 11, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, l'apôtre insiste sur la condition des païens et ce qu'ils étaient autrefois. C'est pourquoi vous, quand il dit vous, il s'adresse aux Éphésiens qui étaient des païens. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Qu'est-ce qu'on appelle circoncis? Les Juifs. Hein? Et vous savez ce qu'était la circoncision? Une petite opération dans la chair. On faisait l'ablation du prépuce. Ah, l'opération est terminée. Mais c'est, le troisième jour, on avait un peu mal, hein, d'après l'écriture. C'est dans le chapitre 17 de la Genèse que Dieu ordonne à Abraham de se circoncire et de circoncire sa descendance. Et il portait ainsi dans la chair la marque de leur appartenance à Dieu. Mais le danger après, c'est que il suffisait d'être circoncis pour être du peuple de Dieu. Mais c'est pourquoi les prophètes ont dit, vous savez, c'est pas la circoncision dans la chair qui compte, c'est la circoncision
du cœur. Hein. C'est d'avoir la marque ailleurs qu'à une certaine place, simplement des circoncis. Mais les Juifs, ils se glorifiaient d'être le peuple de Dieu et de porter en leur chair. Hein. Ils avaient en leur chair une marque. La marque qu'ils étaient le peuple de Dieu. Dieu avait donné cet ordre à Abraham. Alors Abraham a circoncis Ismaël, il était circoncis lui-même, et puis tous les Juifs devaient donc être circoncis. Mais on en tirait, les Juifs en tiraient orgueil. Et les païens, on les appelait des incirconcis, vous comprenez? Ils n'étaient pas du peuple de Dieu, ils n'avaient pas la marque. Alors, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, vous les païens, sans Christ. Privés de droit de cité en Israël, ils ne pouvaient pas être juifs. Et les promesses avaient été faites à Israël, à ce peuple. Ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, à toutes ces alliances qui étaient promises aux juifs. Et dans ce monde, qu'est-ce qu'ils étaient? Sans espérance et sans Dieu. Parce que les dieux qu'ils adoraient, les païens, c'était quoi? C'était des idoles. Hein. Alors, c'était pas. Les idoles ne sont pas des dieux. Alors, voilà dans quelle situation nous, païens, nous étions. Nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Et vous avez vu que dans le premier chapitre, il est parlé que nous devons saisir l'espérance que Dieu nous a proposée. Et ici, il est parlé de gens qui étaient sans espérance. Mais dans le chapitre premier, maintenant, vous savez à quelle espérance vous êtes. Appeler, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi vous pouvez méditer sur l'espérance du chapitre 1er et puis au chapitre 2, vous souvenir qu'il y a un temps où vous étiez sans espérance. Et c'est parce qu'une multitude de gens sont sans espérance qu'il y a tant de suicides. Hein, aujourd'hui. Mais, verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous savez, c'est quelque chose qui me bouleverse et que j'aime beaucoup. Nous étions donc éloignés. Nous étions sans espérance. Mais voilà que la croix s'est dressée. Et qui est-ce qui a voulu la croix? Qui est-ce qui a voulu que Jésus soit crucifié? Qui est-ce qui a dit « Hôte, hôte, crucifie-le » C'était les Juifs. Mais, en fait, qui est-ce qui a exécuté ce que les Juifs voulaient? C'était les Romains. Alors, il s'est trouvé que ces Juifs qui haïssaient les Romains, ces Romains qui haïssaient les Juifs, ils se sont mis d'accord pour faire quoi? Le crime de Golgotha. Alors, qu'on le veuille ou non, juifs et païens ont été rapprochés. Je me souviens toujours de cette conférence que je faisais à Tunis en 1953, devant plusieurs centaines de juifs, où je devais leur présenter, justement, l'évangile. Et, tant que j'étais dans l'Ancien Testament, je les sentais bien avec moi, hein, c'était leur histoire. Mais, quand on doit arriver au Christ, qui est quand même un juif, oui, ça va encore, mais arriver à leur parler de la mort du Christ, j'ai eu cette inspiration, et c'était bien avant Vatican II, mais le Seigneur sait nous donner sa grâce. J'ai dit, vous nous l'avez livré, et nous l'avons crucifié. Et ça a passé. Parce qu'on était sur le même pied. Alors que, avant Vatican II, il était dit que les Juifs étaient le peuple déicide. Et on a enlevé ce mot de déicide. Les Juifs ne sont pas le peuple déicide, c'est les chefs juifs qui ont voulu la mort de Jésus-Christ. Mais parce qu'on disait que les Juifs étaient le peuple déicide, eh bien, on a fait l'antisémitisme. Mais ça a été enlevé. Mais c'était bien avant tout ça. Vous nous l'avez livré, c'était un des vôtres, hein, et nous l'avons crucifié, nous les païens, nous les romains, de sorte que nous sommes tous coupables devant Dieu.
Nous avons été, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Par quoi ? Par le sang de la croix. Il n'y a plus ni juif, ni grec, nous sommes tous coupables du crime de Golgotha. Nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Vous savez, méditer sur ça. Rapprochés par le sang de Christ. Et vous voyez, quand on est au pied de la croix, que tu sois juif ou que tu sois païen, et que vous avez la vision de Jésus sur la croix, quand je le regarde, et que je vois son regard si bouleversé. Puis il y a à côté de moi un autre homme. Il me regarde. Comment est-ce que je le regarde? Après avoir vu le regard de Jésus pour moi, je regarde avec amour. Avant que je le haïssais. Mais maintenant qu'on s'est vu dans la lumière du Christ, il y a un lien entre nous. On est les mêmes. Tout ce qu'on saurait faire, c'est tuer Dieu si on pouvait l'avoir entre les mains. C'est ça. Alors, autrefois, on était loin, on se haïssait, puis maintenant, par le Saint-Esprit, nous sommes convaincus de péché, et nous sommes tous coupables. Il nous a rapprochés. Le sang qui a été versé nous a rapprochés. Et alors, verset 14, « Car il est notre paix. » Oh, je voudrais... Est-ce que vous l'avez, la paix? Qui est-ce qui est votre paix? C'est Jésus, ce n'est pas les circonstances. Il est notre paix. Jésus est votre paix. Dans vos circonstances, il est votre paix. Une paix inaltérable. Qui des deux, donc des païens et des juifs, il n'en a fait qu'un. Comment est-ce que ça se fait qu'on puisse être unis à quelqu'un d'une autre race ou d'une autre, qui venait d'une autre religion? Mais c'est par l'œuvre de la croix. Et il a renversé le mur de séparation et d'inimitié. Il y avait vraiment un mur, les juifs appelaient les païens des chiens. Hein, c'est ça? Eh bien maintenant c'est fini. Il a anéanti ce mur de séparation. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Parce que cette loi dont les juifs se glorifiaient, ils l'ont transgressée. Alors, Jésus, lui, qui était le seul à accomplir la loi, bien, il a été condamné. Mais il avait accompli la loi, il l'avait rendue grande et honorable. Alors, maintenant, juifs ou païens, nous ne pouvions plus nous glorifier de quoi que ce soit. Donc, l'œuvre de Christ est vraiment une œuvre merveilleuse. Nous avons été rapprochés alors que nous étions éloignés. Les chrétiens issus du paganisme forment maintenant avec les chrétiens du judaïsme un seul temple. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a plus cette animosité. Avec les deux, il en a fait un seul homme nouveau. Parce qu'il est question d'un homme nouveau. En établissant la paix. Vous voyez, le Christ est notre paix. Puis vous continuez sur ce sujet, le Christ a établi la paix. Il a établi la paix. Et il a réconcilié avec Dieu l'un et l'autre, juif et païen, en un seul corps par la croix. Au fond, l'Église, elle est née de la croix. Et l'Église est formée de juifs converti au Seigneur et de païen. Le corps de Christ a été formé par la croix. Il a détruit par la croix l'inimitié et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Vous voyez, il est notre paix, il a établi la paix par la croix et puis ensuite, il a annoncé la paix. Vous voyez comment on peut méditer sur un mot. Sur la paix. Il est notre paix, il a établi la paix et il a annoncé la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Ça veut dire, vous qui étiez des païens, eh bien vous avez reçu aussi
l'évangile. Et c'est Paul qui était l'instrument pour apporter l'évangile aux païens. Alors qu'on pensait d'abord que c'était que les juifs qui allaient être sauvés. Eh bien non, la paix a été annoncée à ceux qui étaient loin, mais aussi à ceux qui étaient prêts. Qui est-ce qui était prêt? Les juifs, qui avaient la connaissance de la loi, ils étaient prêts. Mais on peut être prêt et ne pas être sauvé. Alors vous voyez, la paix, ceux qui étaient prêts en avaient besoin, et ceux qui étaient loin en avaient aussi besoin. Et j'ai eu un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui, en apprenant qu'une personne parmi nous a été amenée au Seigneur par quelqu'un qui était en prison. Ça, c'est quand même merveilleux. Un qui était très loin a pu annoncer la paix à un qui n'était pas aussi coupable. Dieu a tous les moyens. Il a annoncé la paix à ceux qui étaient loin. Et ceux qui étaient loin ont été sauvés. Puis il a annoncé la paix aussi à ceux qui étaient prêts, mais qui avaient besoin aussi d'être sauvés. C'est ça qui est merveilleux. Les voies de Dieu. Ne doutez pas. Il a tous les moyens. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par le même Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, ensemble, juifs ou païens, nous avons maintenant accès auprès du Père. Quel est notre accès auprès du Père? C'est le même Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour une certaine congrégation, puis un autre Saint-Esprit, ou moins de Saint-Esprit ici, plus de Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est une personne, comprenez-vous? Et alors, ou bien il nous habite, puis alors nous le laissons agir. Et voilà, la question c'est est-ce que nous le laissons agir? Est-ce que nous le laissons vraiment nous remplir? Nous avons accès au Père. Alors, vous voyez, dans ce salut, qui sont engagés? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vraiment un message trinitaire. Hein? Vous ne pouvez pas les séparer. Vous pouvez les distinguer, mais vous ne pouvez pas les séparer. Vous êtes baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu béni éternellement. Alors, verset 19, ainsi donc, alors, vous avez la conséquence, c'est quelque chose de merveilleux. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens du dehors, vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? De quelle église faites-vous partie? De Jésus, hein. Gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, vous avez été édifiés sur quel fondement? Le fondement des apôtres, ce qu'ils ont prêché, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Jésus-Christ. Quel fondement? Jésus-Christ. Et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Pierre n'a pas dit autre chose que saint Paul. Il n'a pas dit « Je suis la pierre », l'apôtre Pierre. Il a dit « Le Christ est la pierre. » Le Christ est la pierre. Et Paul nous dit que le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre. Et alors, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons ici? Verset 21 du français courant. Donc Jésus est la pierre angulaire, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction. C'est le principe qui assure la solidité de votre église. Il y a toute espèce de principes, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de ismes, n'est-ce pas? Puis on aime bien les ismes, les principes, des frères, ou de ceci, ou de cela. Ce n'est pas les principes qui assurent la solidité de la construction. C'est quoi? C'est Jésus. Et c'est ça qui compte.
C'est Jésus qui assure la solidité de la construction. Alors, ce n'est pas vos principes que vous croyez meilleurs que les autres. C'est d'abord la personne. Revenez toujours à cela. Tenez-vous à cela. Et vous ne dévirez pas. C'est Jésus qui est la solidité de toute la construction. Et qui lui permet de grandir. Qu'est-ce qui permet à une communauté de grandir? C'est Jésus. Pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction. Il parle donc aux païens, pour devenir, avec les autres, une maison dans laquelle Dieu habite par son esprit. Avec les autres. Ne croyez pas que vous êtes tout seul. Croyez qu'il y a aussi les autres. Mais Dieu les connaît, les autres. Et vous n'avez pas à juger les autres. Vous avez à les aimer. Aimer aussi les autres. Parce que vous pourriez être bien surpris et apprendre un jour qu'ils faisaient partie de la construction. N'est-ce pas ? Qu'ils faisaient partie du temple de Dieu. Du vrai temple de Dieu. Quelle que soit la dénomination à laquelle ils ont appartenu et dans laquelle peut-être ils sont restés pour différents motifs. Nous n'avons pas à les juger, mais nous avons à montrer nous-mêmes que nous vivons près du Christ et que nous nous laissons conduire par son esprit. Mais cessez de juger les autres. Vous êtes avec les autres. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation par l'esprit. Alors, vous en avez assez maintenant ? Bien, on peut passer au chapitre 3. Ça sera court, hein? Parce que je voudrais que vous ayez un grand peu de soleil. Chapitre 3 que vous avez lu, quand Paul vient de résumer au fond tout l'évangile, et qu'il voit le plan de Dieu, le secret de Dieu qui a été révélé, il est dans l'admiration, alors il est à cause de cela, de tout ce qu'il vient de dire. Maintenant qu'il n'y a plus ni juifs ni grecs, il n'y a plus les païens et les... Mais il y a un seul peuple à cause de cela. Moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous les païens. Parce que s'il a été prisonnier, c'est parce qu'il a annoncé l'évangile aux païens. Les juifs l'ont accusé, justement, devant Rome, parce qu'il annonçait, au fond, l'évangile aux païens. Ils étaient jaloux de Paul, et que les païens puissent être aussi convertis. Alors, il nous révèle que s'il a été choisi pour réaliser le mystère de Christ, eh bien, c'est par une révélation qu'il a appris cela. Si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Donc, si Dieu a choisi Saul de Tarse, c'est parce qu'il avait un plan pour lui. Il voulait faire quelque chose avec Saul de Tarse. Et Saul de Tarse s'est laissé faire, hein, comme Marie. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il a été arrêté sur le chemin de Damas. Il aurait pu dire, non, non. Moi, j'ai les prêtres derrière moi, etc. Non. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et il s'est laissé faire. Lui qui avait une grande carrière devant lui, il est tombé dans la poussière. Puis s'en est remis à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le changement. Une conversion, c'est un demi-tour. C'est quelque chose de radical qui se produit dans la vie. Alors, il nous apprend comment, verset 3, c'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Il ne dit pas, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, puis j'ai trouvé ça tout seul. Il y en a qui croient qu'ils ont trouvé quelque chose tout seul. C'est ce qu'on apprend. C'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère, ou dans l'autre traduction, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu connaissance de son plan secret. Je trouve admirable. Dieu avait un plan. Et c'est pourquoi cette épître est merveilleuse. Il nous révèle son plein secret, parce qu'on se pose toutes sortes de questions. Eh bien, j'ai eu la révélation. C'est plus un mystère, c'est quelque chose qui m'a été révélé. Et je viens d'écrire au sujet de ce mystère un peu de mots. En lisant ce que j'ai écrit, mais il faut les lire. Qu'est-ce qui lit l'Épître aux Éphésiens aujourd'hui? Oh, dans les lectures quotidiennes, un jour ça passe, puis on lit ça. Puis on a fait sa lecture biblique ce matin. Il ne va pas nous tomber une tuile dans la journée. On est en règle. Mais est-ce que vous avez vraiment mangé cette parole? Est-ce que vous en êtes nourri? En les lisant, mais il faut les lire, ces paroles de Paul, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, l'intelligence que j'ai de ce plan secret. Maintenant, c'est plus secret. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Avant que Paul soit manifesté, c'était comme caché dans l'Écriture. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, qu'est-ce qui révèle les plans secrets? C'est de nouveau le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui a révélé cela aux saints apôtres et prophètes de Christ. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, parce que Pierre aussi a dû avoir cette révélation. Vous savez qu'un jour il a été appelé à aller prêcher à un païen. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne voulait pas y aller. Et il a dû avoir une révélation trois fois. Il a eu cette vision d'une nappe qui descendait du ciel pour qu'il puisse aller apporter l'évangile chez les païens. Mais quand il est revenu à Jérusalem, il s'est fait drôlement ramasser. On lui a dit, les autres apôtres, qu'est-ce que tu allais faire, toi, juste? Tu es allé chez les païens, tu as mangé avec eux. Il dit, mais et comment je vais leur expliquer? Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà ce que Dieu m'a appris. Vous voyez qu'on a besoin d'apprendre. Il avait été 3 ans à l'école de Jésus, puis il n'avait pas encore appris que il fallait aussi annoncer l'évangile aux païens. Donc on doit toujours se laisser instruire. Et si vous apprenez que je m'en vais dans certains milieux, dans certains lieux, au lieu de critiquer toujours d'une façon négative, priez pour moi. Comprenez-vous? Et réjouissez-vous que des âmes puissent entendre l'évangile. L'autre jour, j'ai rencontré à Québec une femme de 94 ans qui m'a dit « Oh, vous savez, j'ai perdu la mémoire, mais je me souviens quand même, il y a 10 ans, vous m'aviez dit ceci. Et puis, bientôt, ben, je l'aurai retrouvé, la mémoire. Je serai vers le Seigneur. » C'est une vieille sœur. Oui, sœur de Jeanne d'Arc, que j'avais évangélisée il y a 10 ans. Et elle s'en souvenait quand même. Mais lui, je perds la mémoire. C'était elle qui m'avait dit une fois, vous savez, il ne faut quand même pas brûler la chandelle par les deux bouts. Il faudrait quand même que vous ménagiez un peu plus, parce qu'on voudrait que vous viviez longtemps pour nous apporter l'évangile. Bon, vous savez, vous pourriez dire non à des gens qui ont soif d'entendre l'évangile d'une façon désintéressée. Non pas pour qu'ils sortent de leur église, mais pour qu'ils jouissent de leur salut en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Vous savez, on aura des surprises. Alors ne jugeons pas. Aimons. Aimons encore. Aimons toujours. Et puis, manifestons l'amour. Qui ne veut pas dire qu'on renie la vérité. J'y tiens à la vérité. Alors, verset 6, ce mystère, c'était que les païens sont co-héritiers et qu'ils forment un même corps et participent de la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, c'est pas lui qui s'est fait ministre, il a été fait ministre, selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et quelle était cette puissance? C'est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est de cette puissance-là que nous avons aussi besoin. Eh bien, Paul peut dire, j'ai connu l'efficacité de sa puissance. Il a pu aller présenter l'évangile jusqu'où? Jusqu'à Rome. Mais ça lui a coûté. Mais il n'est pas en crevé.
Et il n'est pas un écrasé. Il est un réjoui. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Parce qu'il n'avait pas connu le Christ selon la chair. Il n'avait pas une haute opinion de lui-même. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. C'est beau. Il est vraiment l'objet de la grâce. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Moi qui suis le moindre de tous les saints. Bien, s'il y a quelqu'un ici qui dit, ben moi je suis le moindre de tous ceux qui sont ici. Il y a espoir pour vous. Il y a espoir pour vous. Parce que Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux autres. Alors, ayez cette humilité et vous verrez ce que Dieu pourra faire pour que vous puissiez apporter des richesses incompréhensibles, des richesses vraiment qui nous dépassent complètement. Et il a reçu donc le ministère de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église qui est le corps de Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Le ciel vous observe. Et c'est en voyant ce qui se passe dans vos vies et ce qui se passe dans l'Église que les anges admirent la sagesse. Mais alors, nous devrions prendre conscience que la télévision céleste est en train de marcher. Et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce que nous manifestons? Qu'est-ce que le ciel contemple dans l'Église? Est-ce qu'il voit la sagesse infiniment variée de Dieu? Elle est infiniment variée. Dieu a tous les moyens pour sauver. Mais il a un dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais le dessein de Dieu, il datait de quand? D'avant la fondation du monde. Mais il n'a pu être mis à exécution qu'au temps convenable en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a parlé. C'est notre Seigneur qui a exécuté le dessein de Dieu. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Eh bien, j'espère que ce sera le cas en cette fin de journée, que vous sentiez que vous avez la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu? En doutant que celui qui doute ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Allez-y avec confiance. Et alors, sa dernière prière, avec laquelle il finit ce chapitre. Verset 13. C'est pourquoi, vous voyez, dans sa prison, il tombe à genoux sur son coussin. Il ne pense pas à ses genoux, mais il tombe à genoux. Et voyez-vous, moi, je ne dis pas qu'il faut toujours prier à genoux, mais il y a des moments où on sent ce besoin d'être à genoux. C'est quelque chose de presque physique. Il nous contraint, il nous abaisse. Je pense à Élie, sur le Carmel, il était à genoux, il avait même la tête par terre, devant son Dieu. Ce n'est pas des chinagris. C'est un besoin. Je tombe à genoux. Il n'est pas insensible. Il n'est pas un bloc de glace. C'est pourquoi je tombe à genoux. Au verset 13, il a dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc là, nous apprenons que le Père, Dieu notre Père, est le Père de toute paternité. Dans les cieux, il y a des familles, famille des anges, sur la terre, toutes les familles tirent leur nom du même Père. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alors, ne jugez plus. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Qu'est-ce qu'on a vu avant? La richesse de sa grâce. Maintenant, il y a la richesse de sa gloire. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit, où? Dans l'homme intérieur. Tout à fait à l'intérieur de vous. Que vous soyez fortifié par son esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans cet épître? Bien, il vous donne accès auprès du Père, il vous donne d'être fortifié, en sorte que le Christ habite à côté de vous. Non, dans vos cœurs. Par quel moyen? Par la foi. C'est là qu'il est. Vous êtes le tabernacle. Le vrai tabernacle de Dieu, c'est votre cœur, qu'il habite par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. On a dit que c'était une impossibilité. On ne peut pas être enraciné et fondé. Eh bien, oui. C'est le Dieu de l'impossible, ça. On est enraciné dans la terre, puis en même temps, fondé sur le roc. Il y a les deux choses. C'est le Dieu des impossibilités. C'est quelque chose de merveilleux. Nous devons être enracinés dans l'amour. Et nous devons être fondés dans l'amour. Mais quel amour? L'amour de Dieu, hein? Ce grand amour. Vous devez croire à cet amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute de l'amour de Dieu? Ici, ce soir. Qui pense qu'il n'est pas aimé? Alors, vous faites Dieu menteur. C'est pas une question de ressentir quelque chose, mais c'est une question de croire. Je crois. Je crois que tu m'aimes. Pas parce qu'il y a quelque chose de bien en moi. Alors, vous pourrez comprendre avec tous les saints, pas tout seul. Croyez qu'il y en a d'autres qui comprennent cela et qui sont appelés saints par le Seigneur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je voudrais que vous méditiez là-dessus et que vous alliez vous-même chercher dans cet épître la largeur, la longueur. La longueur, depuis quand est-ce qu'il vous aime? Dès avant la fondation du monde, il y a longtemps, hein? C'est ça la longueur. Et puis la largeur, qu'est-ce que nous étions? Morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et c'est à nous qu'il a fait part de cet amour, quelle largeur. Et puis la profondeur, il est descendu comme nous le verrons encore. Plus bas que nous ne sommes, il est descendu jusque dans la tombe pour nous sortir de notre misère. Puis nous a amenés jusqu'où? La hauteur? Au-dessus de toutes les puissances. Alors, faites vous-même contempler la mesure de l'amour de Dieu, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, et de connaître l'amour de qui? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quelle est la connaissance qui compte? L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que, parce que qu'est-ce que Dieu voudrait vous faire? Que vous soyez vidé. C'est ça votre traduction? Non, que vous soyez rempli. C'est vraiment l'épître de la plénitude. Dieu voudrait que vous soyez rempli. Et quand on est rempli, qu'est-ce qu'il y a? Ça déborde. Hein? Des vies qui débordent. Pas parce que nous n'avons pas d'épreuves, pas parce que nous sommes sans difficulté, mais des vies qui débordent. afin que vous soyez remplis. Dans quelle mesure?
Jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
C'est quand même fantastique. Voilà le dessein de Dieu, voilà son plan secret. Voilà sa volonté pour vous, c'est que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors laissez-vous remplir. Puis verset 20. Or, à celui qui peut faire, ou à celui qui a le pouvoir de faire, quoi? Infiniment au-delà. Vous vous rendez compte? Même si vous vous êtes fait une idée de ce que Dieu pourrait faire, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est ça que vous devez croire. Celui qui peut faire infiniment au-delà. C'est pas vous qui allez faire ça. C'est lui qui va faire. Si vous vous laissez faire, lui fera au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et penser. De tout ce que vous pouvez même demander ou penser. Donc, quel exaucement? Alors, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Dans quelle génération alors? Si c'est dans toutes les générations, dans la nôtre. Comprenez-vous? Alors ne vous laissez pas écraser par le temps présent. Mais croyez que même dans cette génération, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous et qui est la sienne, eh bien, il peut faire. La puissance qui agit en nous, c'est la sienne, c'est la puissance de Dieu. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Alors nous lui donnons gloire. Hein. À lui soit la gloire. Alors nous terminons ici donc la doctrine de cet épître. Et alors, dès ce soir, nous allons voir comment, ayant une telle doctrine, connaissant de telles choses, notre vie doit se passer. Comment nous pouvons vivre maintenant la vérité qui nous a été enseignée? Parce que nous avons l'enseignement, nous avons la doctrine, elle est forte, hein, bénie de toute bénédiction. Eh bien, étant donné cette doctrine, quelle doit être maintenant, dans ce monde, notre vie? Dès ce soir, on entrera dans la pratique de tous les jours, alors que nous sommes aux prises avec toutes sortes de difficultés dans ce monde. Mais nous avons le secret. Nous connaissons le secret de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Et il est merveilleux. Que ta grâce, ô Dieu, nous soit donnée pour la fin de cette journée et que tu répondes aussi à toutes les questions qui peuvent encore se poser à notre esprit. Que nous sachions attendre les réponses de ta parole, afin que nous ne recevions pas les réponses d'un homme ou les idées d'un homme, mais que, entendant ta parole, nous puissions dire « Le Seigneur a répondu à mes questions. » Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par cette puissance,